La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à Jérusalem, alors que les États-Unis viennent de reconnaître la ville comme capitale unifiée d'Israël, 50 ans après l'occupation de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, de la bande de Gaza, du plateau du Golan et du désert du Sinaï. C'était le 10 juin 1967, à l'issue de la guerre des Six Jours.
I remember the Israelis when they demolished the whole area, the Moroccan quarter.
Je me souviens avoir vu les Israéliens détruire l'intégralité du quartier des Marocains.
On the 10th of June 1967.
C'était le 10 juin 1967.
I could see the finishing of the demolishing of the Moroccan quarter from the windows of my house.
J'ai vu cette destruction par les fenêtres de ma maison.
Here in Jerusalem, of course.
Ici, à Jérusalem.
Raïfa Halidi revit l'événement le plus secret de toute la guerre israélo-arabe. La destruction du quartier qu'elle appelle marocain, historiquement quartier des Maghrébins. Depuis la terrasse de sa maison, où m'a conduite Vincent Lemire, elle témoigne de ce qu'elle a vécu. Un récit saisissant pour l'historien et directeur du projet d'ouverture des archives de la ville sainte, Open Jérusalem.
J'ai ressenti d'abord une intense émotion et puis j'ai compris que pour Raïfa Halidi, ce souvenir était très très actuel, très très présent à son esprit. Elle le vit quasiment comme si c'était hier ou aujourd'hui. Quand elle regarde la vue depuis sa salle de bain, on a l'impression qu'elle se retrouve 50 ans en arrière et donc elle a du mal à mettre des mots sur ce qu'elle a vu et qu'elle a assez peu raconté finalement.
À travers les fenêtres de Raïfa, nous avons une vue imprenable sur le site le plus sacré de la religion juive, le mur des Lamentations, vestige du temple d'Hérode. Depuis 50 ans, les Palestiniens ne peuvent plus l'approcher car les checkpoints de la police des frontières filtrent l'accès. Mais de 1948 à 1967, ce sont les Juifs qui en étaient privés à cause de la ligne verte, suite à la division de la ville sainte en deux secteurs, Jérusalem-Ouest, administrée par Israël, et Jérusalem-Est, administrée par la Jordanie jusqu'en 1967. C'est une conséquence de la première guerre israélo-arabe, suite à la création de l'État d'Israël en 1948, l'année de naissance de Raïfa Halidi.
Now we are on the roof of my house.
On est sur la terrasse de ma maison.
And overlooking the plaza, or what used to be the Moroccan quarter.
On surplombe l'esplanade qui était auparavant le quartier des Marocains.
As you can see, it's a very huge area.
Comme vous pouvez le voir, la place est immense. Et il n'y a pas de mosquée parce que vous voyez que la grande mosquée est très proche.
I belong to Jerusalem, of course.
Ma place est à Jérusalem, bien sûr.
As I said, I lived all my life.
Comme je vous l'ai dit, j'ai vécu toute ma vie ici, dans cette maison.
And I'm going to die, hopefully, in this house.
Et j'espère y mourir.
As a Palestinian,
je suis une Palestinienne.
As a Jerusalemite,
je suis de Jérusalem.
And at last, as a Khalidi.
Et au fond, je suis une Khalidi.
Comme souvent dans ces grandes familles palestiniennes, ce sont les femmes qui gardent la maison, qui gardent la mémoire, qui gardent les archives. Raïfa, c'est elle qui gardait la bibliothèque, qui entretenait les livres, qui entretenait les archives familiales, pendant que les hommes, en fait, faisaient leur vie, souvent à l'étranger, à Genève, à New York, à Washington, enfin, faisaient des grandes carrières diplomatiques ou académiques. Les femmes sont restées ici, ce qui veut dire aussi qu'elles ont, d'une certaine manière, sacrifié leur vie, en fait, hein, à cette cause, à cette mission qu'elles se sont donnée et qu'on leur a donnée. La mission de garder les lieux, de tenir les lieux, de tenir bon, de ne pas partir. C'est ce qui aujourd'hui donne un sens à sa vie, même si c'est un sens tragique. Et en même temps, heureuse, hein, on voit de raconter cette histoire, parce que c'est ce qui donne sens à leur vie.
Raïfa, est-ce que nous pouvons faire ensemble un flashback et évoquer le premier jour de la guerre en 1967?
Well, I remember that,
eh bien, Je me souviens d'avoir entendu l'annonce de la déclaration de la guerre vers 11h du matin et je voulais aller chez le dentiste ce jour-là, mais je n'ai pas pu. Ma mère m'a dit, non, tu restes à la maison. Mon père était en train de superviser les examens généraux à Ramallah.
Il ne pouvait pas venir. Through the main road coming from Ramallah to Jerusalem.
Il n'a pas pu emprunter la route principale de Ramallah à Jérusalem, donc il a dû passer par Jéricho, une autre ville.
And on the way,
et sur le chemin, il a vu les tanks israéliens.
And they stopped him
et ils l'ont arrêté avec son chauffeur.
And asked them, where are you going? And
ils leur ont demandé, où allez-vous? Et ils ont répondu à l'est, c'est-à-dire vers la Jordanie.
They thought that he was going to go to Amman, but of course he came all the way to Jerusalem.
Ils ont cru qu'il allait à Amman, mais bien sûr, il est venu à Jérusalem et il est arrivé exténué vers 5h30 de l'après-midi.
At that time we were really frightened that we might have lost him.
À ce moment-là, on a eu très peur de l'avoir perdu.
But we were really lucky.
Mais on a eu beaucoup de chance.
En fin de matinée, la radio du Caire a lancé un appel en arabe. Pierre-Étienne nous en présente l'enregistrement et la traduction.
Au nom d'Allah Tout-Puissant et Miséricordieux, ô Arabes de Syrie, Arabes de Jordanie, Arabes de l'Irak, Arabes du Koweït, Arabes d'Alger, en avant au combat, tous les Arabes ensemble, au combat pour la nation arabe.
Well, we couldn't see anything except we kept listening to the radio.
On ne pouvait absolument rien voir, donc on écoutait tout le temps la radio. Bien sûr, les radios israéliennes nous racontaient que l'armée arrivait, que les gens devaient montrer des drapeaux blancs, qu'il ne fallait pas avoir peur. Mais on ne les a jamais crus. On écoutait nos radios arabes. Et ça me désole de le dire, mais tous nos espoirs étaient vraiment anéantis. Les Israéliens ont atteint la vieille ville le mercredi. À cette époque, nous avions une porte en bois à l'entrée de notre maison. Et il fallait tirer sur une corde pour l'ouvrir.
Les soldats ont dit « Open the doors, we don't hurt innocents ».
Et un soldat nous a demandé d'ouvrir la porte. Il a dit qu'il ne ferait pas de mal à des innocents, donc mon père est allé ouvrir. Un des soldats avait une grenade et l'a jetée à l'intérieur. Elle est tombée sur la troisième marche de notre escalier avant d'exploser.
Ils ont pris les hommes et les jeunes et ils les ont rassemblés. All at the mosque area.
Ce jour-là, ils ont pris les hommes, les jeunes comme les vieux, et ils les ont regroupés devant la mosquée pour les contrôler.
Luckily, my father was old enough, and my uncle.
Par chance, mon père et mon oncle étaient assez âgés, et ils les ont laissés rentrer.
We were really worried that they might be shot.
Nous étions très inquiètes qu'ils soient fusillés.
We were really frightened that.
Nous avions très peur qu'il se passe des choses terribles. Surtout parce que nous étions très jeunes, ma sœur et moi, et nous avions beaucoup entendu parler de 48. L'ambiance était très, très angoissante parce qu'on avait peur qu'il nous viole. Mais par chance, ce n'est pas ce qui s'est passé.
Vincent Lemire, lorsqu'on écoute Raïfa Khalidi témoigner de ces jours particuliers de 1967, hein, de cette guerre des six jours et de l'entrée des Israéliens dans Jérusalem-Est, elle nous dit qu'il y avait les peurs ravivées de 1948, notamment pour nous les femmes. Pourquoi ?
Oui, ça c'est très fort dans son témoignage, d'abord parce que Raïfa est née en 1948, dans cette maison. Et donc en 1967, elle a 19 ans, elle vit toujours dans la même maison, et évidemment, elle revit les événements. Et évidemment, elle a peur, comme la plupart des Palestiniens de Jérusalem, que ça recommence, c'est-à-dire les expulsions. Les femmes sont dans la maison, et le viol de la maison, le fait que des soldats entrent dans la maison de force, sans avoir l'autorisation des femmes, c'est un viol symbolique, hein, évidemment, puisque les femmes sont celles qui gardent la maison.
Viol seulement symbolique.
Il n'y a pas, que je sache, hein, il n'y a pas eu, peut-être des cas extrêmement individuels et extrêmement isolés, mais il n'y a pas eu d'exaction de la part de l'armée israélienne, ni en 48, ni en 67, de cas avérés, hein, de viol de femmes. Ça ne fait pas partie, de l'arsenal, hein, de l'armée d'occupation israélienne.
Mais pour Israël, le grand succès du jour, c'est évidemment la prise de la vieille ville de Jérusalem.
De Jérusalem, André Semama.
Le drapeau israélien flotte depuis une heure sur la tour du roi David, au lieu du judaïsme, dans la partie jordanienne de Jérusalem. La résistance jordanienne s'est effondrée à Jérusalem et les forces israéliennes sont maîtresses de la totalité de la ville. Dans la partie israélienne, la joie et l'émotion de la population sont à leur comble, et des cohortes d'hommes et de femmes se rendent déjà vers les points d'accès de la ville arabe, où d'ailleurs elles sont repoussées fermement par le service d'ordre. Une intense émotion se lit sur tous les visages, car les Israéliens ont le sentiment de vivre un moment historique dans le sens le plus précis du terme. Mais de temps à autre, le claquement d'une arme légère retentit, provoquant aussitôt de larges rafales d'armes automatiques. Des tireurs isolés refusent encore de se rendre. Mais depuis aujourd'hui midi, Jérusalem n'est plus une ville déchirée.
Raïfa, quelle a été la conséquence de la prise de Jérusalem par les Israéliens? Qu'avez-vous vu, justement, vous qui avez votre maison, nous sommes sur le toit de votre maison, face à l'ancien quartier des Maghrébins?
Le jour où ils sont arrivés, comme je l'ai dit, c'était un mercredi. Ce soir-là, ils ont demandé aux gens qui vivaient juste à côté du mur des Lamentations d'évacuer leur maison. Ils n'ont eu que 2 heures. Et les bulldozers ont entamé la démolition.
La destruction du quartier des Maghrébins, aucun témoin ne l'avait jamais raconté.
Ici, en face de nous, maintenant, c'est où il y avait le quartier marocain. Maintenant, comme vous voyez, c'est un lieu de prière pour les juifs, ce qu'on appelle Hat al-Buraq.
El Bourak, c'est ainsi que les musulmans dénomment le mur selon la tradition islamique. Bourak désignant l'animal fabuleux chevauché par Mahomet entre la Mecque et Jérusalem. Le prophète aurait attaché sa monture au mur. Mais ce mur, nous n'avons pas le droit de nous en approcher. Abou Mahdi, parce qu'il est palestinien, et moi, parce que je n'ai pas eu le droit d'enregistrer. Collé au barreau qui protège l'esplanade, Abou Mahdi décrit précisément son ancien quartier où il est né le 30 juin 1954. De son prénom, Moïse Jésus, Abou Mahdi, le descendant de pèlerins marocains. Ce sont ses grands-parents, venus de Fès, qui se sont installés les premiers ici dans le Saint des Saints au tout début du XXe siècle.
Nous, maintenant, on se trouve dans le quartier maghrébin, ce qu'on appelait le quartier maghrébin avant. Maintenant, ma maison, il se trouvait où il y a la fontaine, à 50 mètres de là où on est maintenant. C'est un lieu qui est interdit aux Arabes, on ne peut pas arriver jusqu'à là. Je ne peux même pas arriver jusqu'à ma maison.
Et votre maison à vous, elle était où exactement?
Ici, il y avait le quartier central. Ils ont commencé à détruire à partir où vous voyez les voitures là-bas, jusqu'à le centre du quartier. Ici, c'est les extrémités, ils ont détruit après. Ma maison, vous voyez où il y a le groupe de gens là-bas, mais ma maison, elle était là-bas. Où il y a la tente bleue là, le passage, derrière c'est la porte du Marocain. à l'intérieur de l'esplanade de la mosquée, on voit qu'il est marqué la porte des Marocains. Ils ont tout fermé et c'est fait qui pour la police.
Un moment où il y a un moment. شايف هذا البنت اللي داير ظهرها بالها الزلمه اللي حامل الشنطه
ما ميزون سي تروفي فريمون ا une vingtaine de mètres du mur de la montation il faisait à peu près de 2 à 300 mètres carrés
كان حي عظيم يعني حي كويس كان اكبر حي في البلد يعني اولاد البلد ايش بدهم من برا اذا بنقطعوا يجوا من هون
يعني c'était un quartier vraiment bien c'était un quartier complet même les gens des autres quartiers quand il leur manquait quelque chose ils venaient dans notre quartier c'était un quartier incroyable
comment s'appelait votre quartier
حي المغاربه
le quartier du Maghreb
Le quartier maghrébin, avant 67, comptait 138 familles, très précisément. Les chiffres convergent à la fois si on regarde les archives du WACF, si on regarde les archives du côté israélien. 138 familles, en tout entre 650 et 800 personnes vivaient dans ce quartier des maghrébins et donc ont été expulsés entre le 10 et le 11 juin 1967.
Vincent Lemire, spécialiste de l'histoire de Jérusalem.
D'abord, il faut dire que les habitants du quartier maghrébin ne sont pas jordaniens, ne sont même pas palestiniens, ils sont bel et bien maghrébins. Et ils se rattachent bel et bien à cette identité marocaine, algérienne ou tunisienne, et pour certains d'entre eux, à leur citoyenneté française. Parce que la France avait pleine souveraineté sur l'Algérie jusqu'en 1962, parce qu'à partir de 1948-49, les habitants du quartier maghrébin de Jérusalem ont été coupés de leur village de Aïn Karem à l'ouest de la ligne verte, donc en Israël, et c'est ce village qui leur rapportait jusqu'en 1948 leurs revenus, eh bien le consulat de France, la France, le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay à Paris, en fait, a pris fait et cause pour les Maghrébins de Jérusalem et en fait s'est mis à s'en occuper, à leur transférer de l'argent, à faire y compris des quêtes en Algérie, à Tlemcen. C'est extrêmement étonnant de voir que ces maghrébins, j'ai parfois l'habitude de dire, ce sont des orphelins de l'Empire. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas palestiniens, ils n'étaient pas jordaniens, ils étaient musulmans à l'évidence, ils étaient même très pieux puisqu'ils étaient là la plupart après un pèlerinage. On sait d'ailleurs que ce quartier, qui était un quartier pauvre, c'était d'ailleurs sa vocation. Sa vocation était d'être un quartier pauvre puisqu'il était là pour accueillir les pauvres pèlerins qui n'avaient pas d'argent pour se loger à l'hôtel ou pour se soigner, etc. Donc c'était d'une certaine manière ce qu'on appelle aujourd'hui du logement social, quoi, ou des zones d'accueil. Hein, beaucoup avaient des liens forts avec leur famille restée en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc. Et puis, en 1962, ces liens se sont coupés. Et puis encore plus en 1967, quand ils se sont retrouvés sous occupation israélienne.
Et pourtant, l'histoire de la destruction du quartier des Maghrébins n'a jamais été écrite par les historiens. D'où l'urgence de recueillir la mémoire de ses habitants, 50 ans après la fin de la guerre des Six Jours.
Cette lutte pour Jérusalem a été très dure. La preuve, ces échos que nous a envoyés notre envoyé spécial, Pierre Lantenac.
J'ai été le premier journaliste français à pénétrer dans la Jérusalem jordanienne. Mais revenons en arrière. En début d'après-midi, Jérusalem avait son visage de guerre, rue déserte et fracas des armes. Il était 15 heures. Écoutez. J'irai donc à Jérusalem, côté jordanien. La ville n'a pas trop souffert des combats de rue d'hier. Les derniers résistants sont accrochés à la périphérie de la vieille citadelle. On meurt encore pour Jérusalem. J'ai vu un colonel israélien embrasser ses hommes. Il m'a embrassé aussi en me parlant en hébreu. Il m'a envoyé une bourrade. Je suis heureux. Il y a 19 ans que je rêvais d'entrer dans Jérusalem.
Jérusalem 1967, le secret de l'esplanade du mur, c'est notre épisode documentaire et c'est à suivre dans quelques instants.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
C'est la suite de la marche du monde à Jérusalem. Nous enquêtons sur la destruction du quartier des Maghrébins, un événement majeur de la guerre des six jours dont la jeune nation israélienne est sortie victorieuse contre les pays arabes le 10 juin 1967.
À Jérusalem ce matin, le calme est total et l'on voit déjà circuler les bus qui pendant 60 heures ont surtout servi au transport de militaires sur des itinéraires inhabituels. Les émetteurs de la radio jordanienne qui sont installés sur les collines de Ramallah diffusent depuis ce matin les programmes de la radio israélienne en langue arabe.
Et pourtant, sous ce calme apparent se cache l'angoisse silencieuse des familles maghrébines expulsées de leur quartier suite à la prise de la ville sainte par les soldats israéliens.
En 1967, quand les Israéliens sont rentrés dans le quartier, on était ici dans notre maison, dans la maison qui était détruite. Et on attendait des portes qui se cassent, des cris des soldats qui étaient par terre. On a vu par les fenêtres des soldats qui passaient dans la rue. À ce moment-là, on a compris que ce n'était pas des portes, c'était vraiment des soldats qui essayaient de rentrer dans les maisons.
En 1967, Abou Mahdi avait tout juste 13 ans. Scolarisé par son père marocain à Ramallah afin qu'il apprenne l'arabe, il est venu pour les vacances scolaires chez ses tantes. Mais cet été-là, elles lui interdisent de jouer dans les ruelles du quartier qui conduisent au mur des lamentations.
À ce moment-là, on était tout petits, on ne se rendait pas compte que c'était la guerre. On voyait des soldats passer, des soldats crier. Mais c'était les parents qui nous expliquaient que ça commençait, que c'était grave, qu'il ne faut pas sortir dans les rues, en fait. À ce moment-là, on attendait les haut-parleurs annoncer qu'on a un quart d'heure pour vider les maisons, qu'on peut sortir sans prendre rien du tout avec nous. Et si on reste dans notre maison, les maisons elles vont être détruites sur nous. Et je me rappelle qu'il y avait une famille des handicapés, des vieux personnes. Ils ne savaient pas sortir, qu'ils étaient morts dans leur maison.
À ce moment-là, est-ce que toutes les maisons du quartier, qu'on appelle le quartier des Maghrébins, sont occupées par des familles ?
On était nombreux dans notre maison. Notre maison elle était très grande. Il faisait 400 mètres carrés, deux étages. On était à peu près une vingtaine de personnes. On avait des locataires dans la maison. On était beaucoup d'enfants aussi dans la maison.
Vous vous souvenez des prénoms des enfants et du nom des familles qui vous entouraient ?
Oui, il y avait beaucoup de familles dans les quartiers, des noms des familles de Salaïmé, des Mourabi, tout ce genre de familles.
Qu'est-ce que vous voyez, vous, précisément ?
On était devant la fenêtre dans notre maison, on regardait et on attendait les haut-parleurs disaient sortez, vous avez un quart d'heure de sortir, sinon vous allez mourir et la maison va être détruite sur vous. Et on regardait par les fenêtres, comme toutes les familles, on voyait ce qui se passait dehors.
Avec quoi le quartier a été détruit ?
Ils avaient des machines, des bulldozers et tout ça, et ils rentraient avec leur matériel. Et puis, ils ont détruit à peu près 700 maisons dans le centre du quartier. Les quartiers qu'ils ont détruits, c'était vraiment à côté du mur de lamentation. C'était à 20 mètres de ce mur.
On va chez maman.
Oui.
Bon, il y a une question que je voulais vous poser tout à l'heure sur le statut de Jérusalem. Nous avons surtout remarqué et retenu la phrase du général Moshe Dayan, « Nous sommes à Jérusalem, nous n'en repartirons plus ».
Eh bien, j'ai auprès de moi M. André Chouraki, qui est l'adjoint au maire de Jérusalem, et je crois qu'il va pouvoir nous donner certaines précisions à ce sujet.
La phrase de Moshe Dayan ne fait en fait qu'exprimer l'opinion unanime de tous les Israéliens. La date du 7 juin 1967 est au fond parallèle et complémentaire de l'époque à laquelle Jérusalem est tombée sous les coups de Titus. Jérusalem, après 60 heures de combat et 40 heures de très dur bombardement, vient de retrouver son unité. La nouvelle, l'événement, a été accueilli dans Israël tout entier avec une profonde émotion, une émotion religieuse, pourrait-on dire. Devant les murs, le mur des lamentations, des délégations viennent du pays tout entier, tandis que du monde entier, du monde chrétien également, nous parviennent des messages qui saluent l'importance de cette date en vérité historique.
En revanche, M. Chouraki,
oui,
certains se demandent si cette décision des Israéliens ne risque pas de compliquer la situation diplomatique et la prochaine négociation.
Eh bien, le président du Conseil, M. Lévi Eshkol, a donné toutes les garanties voulues concernant les lieux saints et avec l'approbation des principaux représentants des églises dans la vieille ville. Les lieux saints seront garantis et auront toutes les garanties de droit public nécessaires, mais il semble impensable que la vieille ville échappe à la souveraineté d'Israël.
André Chouraki est alors l'un des adjoints au maire de Jérusalem. Il fait référence à l'empereur romain Titus et la destruction du temple le 30 août de l'an 70 de notre ère. Est-ce à dire que pour le maire de Jérusalem, Teddy Kollek et ses adjoints, l'occupation de Jérusalem en 1967 constituait une occasion unique de réinvestir les vestiges du temple? La reprise de Jérusalem était-elle un objectif de guerre? Je pose ces questions à l'expert Vincent Lemire, dont les recherches sont consacrées depuis plusieurs années aux archives de Jérusalem, berceau commun du judaïsme, du christianisme et de l'islam.
Non, la guerre de juin 67 n'est pas une guerre sainte, c'est une guerre stratégique pour le gouvernement israélien. Il s'agit encore une fois d'écarter les pressions des États arabes autour. Par contre, il est vrai, et tous les historiens le reconnaissent, et les Israéliens eux-mêmes, que la guerre de juin 67 va faire opérer un tournant dans l'histoire d'Israël, et va faire que, y compris le sionisme, va petit à petit s'orienter de plus en plus sur des aspects religieux, sur des aspects sacrés. Évidemment, dans cette logique-là, la destruction du quartier des Maghrébins et la création de cette esplanade du mur entrent totalement en résonance avec cette logique. La guerre de juin 67 n'est pas une guerre religieuse, n'est pas une guerre sainte, mais elle va avoir des conséquences sur l'histoire d'Israël et sur l'histoire du sionisme et sur l'émergence de ce sionisme religieux qui est aujourd'hui extrêmement puissant en Israël, ce qu'il n'était pas en juin 67.
Mais la question des responsables de la destruction du quartier des Maghrébins reste entière. La réponse va surgir le 3 juin 2017. Le journal Haaretz annonce alors l'exposition des archives d'un petit groupe d'Israéliens qui ont, je cite, « refait du mur des Lamentations un monument juif ». En plein accrochage des pièces à conviction remises à l'Institut Yad Ben Zvi, la commissaire de l'exposition Nirit Chalef Khalifa nous révèle la clé de l'histoire de la destruction du quartier des Maghrébins.
Now everyone talking about 50 years for the Six-Day War.
Au moment où tout le monde parle du 50e anniversaire de la guerre des six jours,
we actually got a very strange donation.
Nous avons reçu une très étrange donation.
A piece of a door lock that was kept by a
un verrou ancien qui avait été conservé par un soldat mobilisé pendant la guerre des six jours à Jérusalem.
His name was Ze'ev Zibun Ben Gal.
Son nom était Ze'ev Zibun Ben Gal. Il était venu ici pour faire la guerre en tant que soldat de réserve.
He was actually a driver of heavy machines that destroyed the houses.
Il a conduit les bulldozers qui ont détruit les maisons le long de l'allée du mur occidental. C'est là qu'il l'a trouvé. C'est le verrou de la porte qui conduisait de l'allée au quartier des Maghrébins.
And he kept it as a relic.
Il l'a gardé comme une relique pendant des années.
And he passed away a year ago.
Et il est décédé il y a un an.
This lock that looks horrible.
C'est comme ça qu'on a eu ce verrou.
But what is the story?
Mais quelle est l'histoire?
The Western Wall was locked actually.
Le passage pour accéder au mur occidental était en fait très étroit entre le quartier des Maghrébins et le mur. Tous les débats, les disputes, même les émeutes en 1929 ont commencé à cause de cette situation.
If someone put a bench for the old people, so it was a reason for a riot.
Si quelqu'un voulait mettre un banc pour une personne âgée, c'était un motif d'émeute. Et c'est ce qui s'est passé en 1929.
That was the beginning of the 20th century. We are talking about national Arabs.
Au début du 20e siècle, ceux qui se battaient, c'était les nationalistes arabes. Ceux qui seront plus tard du côté palestinien. Et l'autre côté, c'était les juifs, les sionistes.
The first things that happened when Israel.
La première chose que les Israéliens ont faite lorsqu'ils sont arrivés pour conquérir la vieille ville ou la libérer, tout dépend de qui raconte l'histoire, c'est évidemment d'avancer jusqu'au mur occidental. Vous savez, ça ne faisait que 19 ans que les Juifs n'y avaient plus accès. Donc tous se rappelaient de l'humiliation causée par le manque de place pour prier. Près du mur occidental, on voyait toujours les personnes âgées des anciennes communautés juives, des orthodoxes, qui venaient pour prier et mourir à Jérusalem. Mais les sionistes avaient une vision plus large du mur occidental, pas uniquement le côté religieux. Le mouvement sioniste voulait changer la situation. Il disait « Le mur est la source de notre tradition, de nos droits ici, mais nous devons faire quelque chose de nouveau. » Et quand ils sont arrivés, c'était le samedi 10 juin au soir. Le mur occidental était sous le contrôle de l'armée israélienne. C'est alors que le maire, Teddy Kollek, a décidé que c'était une occasion unique de créer la grande esplanade.
Parce que si nous attendons le lendemain, the whole world will see.
Parce que si on attendait le lendemain, le monde entier en serait témoin et cela condamnerait la destruction du quartier des Maghrébins.
You have to make it a huge square, the national square.
Il fallait en faire une immense esplanade, une esplanade nationale, comme il y en a dans toute capitale, à laquelle les gens pourraient se rendre et sur laquelle ils pourraient se rassembler par milliers.
But they didn't want the state to do it.
Mais ils ne voulaient pas que l'État le fasse. Teddy Kollek et les généraux qui étaient en charge de Jérusalem ne voulaient pas que l'armée le fasse. Ils ont fait appel à des volontaires, des entrepreneurs du bâtiment de Jérusalem.
Et 15 of them came and they asked from the in charge officer.
15 d'entre eux sont venus et ils ont dit à l'officier, vous devez nous donner un ordre écrit, sans quoi nous sommes des criminels. Alors il a juste rédigé une note manuscrite disant, vous devez nettoyer cet endroit. Son nom est Eitan Ben Moshe. Il était officier, capitaine, je crois. Tout est écrit dans les archives. Donc les orthodoxes et les anciennes communautés juives voulaient y prier. Mais pour les sionistes, avec la fin de la guerre des six jours, c'était un miracle.
Si la destruction du quartier des Maghrébins est pour la première fois racontée comme un récit glorieux, on se demande pourquoi Israël ne l'a pas revendiqué dès 1967. La destruction de ce quartier arabe viendrait-elle contredire le mythe d'une occupation respectueuse de toutes les communautés de la ville sainte ?
Il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres destructions massives. Et d'ailleurs, il n'y a pas de combat à Jérusalem en 1967. Il y a beaucoup plus de combats pendant la guerre de 48-49. Si on va à Porte de Sion, la Porte de Sion est criblée de balles et y compris de trous d'obus, mais c'est la guerre de 48-49, c'est pas celle de 67. La guerre de 67, Jérusalem est prise sans combat. Il y a une petite escarmouche sur la colline des munitions, mais c'est tout. Et dans la vieille ville, rien du tout. Donc c'est une destruction massive, mais qui est un cas unique, y compris dans la guerre de juin 67.
Ils sont venus dans cette petite ruelle et tous pleuraient. Tout le monde est venu au Kotel. C'était un moment très émouvant.
And then they saw a toilet.
Et d'un coup, ils ont vu des toilettes publiques accolées au lieu saint.
They said, okay, this is the things that we are going to start with.
Ils se sont dit qu'ils allaient commencer par
we
là.
We are going to destroy the toilet because this is.
On va détruire ces toilettes parce que pour nous, c'est le summum de l'humiliation.
And at one night, they made huge square.
Et en une seule nuit, ils ont créé une immense place.
Daughter of one of the members of the order.
La fille d'un des membres de l'ordre du Kotel, Joseph Schwartz, m'a dit que son père lui avait raconté.
He said, I'm building things.
Moi, je suis un bâtisseur. Et pendant toute ma vie, j'ai été fière de ce que je bâtissais.
But once in my life, I was very proud that I destroyed things.
Mais une seule et unique fois dans ma vie, j'ai eu de la fierté à détruire.
À l'issue de cette enquête, à Jérusalem, on peut se demander si la destruction du quartier des Maghrébins, situé face au mur des Lamentations, était un objectif secret de la conquête de Jérusalem-Est par l'armée israélienne. À la lumière des archives consultées pour son projet Open Jérusalem, Vincent Lemire est catégorique.
La destruction du quartier des Maghrébins n'est pas un objectif de la guerre, et d'ailleurs, Jérusalem n'est pas un objectif de la guerre. La prise de Jérusalem n'est pas un objectif de guerre pour les Israéliens. L'objectif de la guerre, c'est de faire cesser les provocations, notamment égyptiennes, et la pression militaire qui grandit contre les frontières d'Israël. Donc Jérusalem n'est pas un but de guerre, et donc le quartier des Maghrébins encore moins. Par contre, la guerre offre effectivement l'opportunité de réaliser un vieux projet qui remonte à très loin, qui remonte au début du XXe siècle, qui est le dégagement d'un espace de prière plus large pour permettre aux juifs de Jérusalem et aux visiteurs, aux fidèles, de venir prier devant le mur des Lamentations. Et on a énormément de témoignages concrets, de tentatives, hein, depuis le début du XXe siècle, 1913, 1929, les années 30 encore, de tentatives, hein, d'achat de ce quartier, évidemment, pour le détruire et pour en faire une zone ouverte de prière. Donc c'est effectivement c'est un fait de guerre, c'est une prise de guerre, c'est la guerre qui a donné l'opportunité à cette décision d'être prise.
C'est ainsi que le 14 juin 1967, le jour de la fête de Shavuot, quelques jours à peine après la fin de la guerre des six jours, les Juifs ont pour la première fois accès à la zone du Temple, dégagée de toute trace du quartier des Maghrébins. Plusieurs centaines de milliers de fidèles se rendent alors à pied jusqu'au Kotel, le mur des Lamentations.
Il était 3 heures ce matin quand les premiers Israéliens se rassemblaient à Jérusalem au pied du mont Sion. À 5 heures, les premiers entraient dans la vieille ville, dans la ville sainte, la ville qui leur était interdite depuis 19 siècles. La prophétie allait se réaliser, elle se réalisait, on vivait l'histoire sur une terre d'histoire. Les premiers à entrer étaient les Hassidim, ces juifs de stricte obédience qui ne connaissent que l'obéissance sans concession à la loi remise au peuple juif sur le mont Sinaï par Moïse. La fête de la Pentecôte aujourd'hui célèbre justement la remise de cette loi de la Torah au peuple élu. Les Hassidim aux longs cheveux bouclés ou tressés, vêtus de leurs longues lévites noires, couverts de leurs chapeaux de feutre ou de fourrure, en dépit de la chaleur, pour être fidèles à la tradition Hassidim née en Pologne il y a 200 ans. Et à présent, c'est l'entrée dans la vieille Jérusalem, sur une vaste esplanade dégagée par les Israéliens en 48 heures, c'est le mur des Lamentations. Lamentation est le seul vestige du temple de Salomon, détruit il y a 19 siècles par Titus. Depuis 19 siècles, c'était vers lui que se tournaient les Juifs au moment de la prière. Aujourd'hui, la prière sera dite devant le mur. Venu de Tel Aviv, de Haïfa, de Bercheda, des kibbutz et des villes. Il est 14h ici et déjà 150 000 ou 200 000 personnes peut-être sont passées. Ce soir, il y en aura le double. Devant le mur, on prie.
Ce mur, plus précisément, c'est une haute muraille faite d'énormes blocs de pierre. Quelques pieds de figuier ont réussi à pousser entre les blocs. Depuis ce matin, branche par branche, ils sont tous arrachés. Tout le peuple d'Israël est là, hommes et enfants, femmes et vieillards. On se presse pour aller au pied même du mur qui pourtant fait plus de 100 mètres de long pour le toucher et pour prier en le touchant quelques instants. Depuis 1948, on le sait, les Israéliens ne pouvaient plus venir prier devant ce mur des lamentations qui symbolise en quelque sorte aujourd'hui les libertés et l'indépendance retrouvée.
Lorsque les juifs religieux investissent pour la première fois l'esplanade du mur nouvellement créé, ils n'ont aucune idée du secret qui a été scellé 3 jours plus tôt, cette fameuse nuit du 10 au 11 juin 1967 où le quartier des Maghrébins a été détruit.
Our story is 3 o'clock in the morning.
Alors notre histoire, c'est à 3h du matin, le dimanche 11 juin.
Those 15 old constructors feeling they doing the most important things in their life.
Ces 15 entrepreneurs pressentent qu'ils vivent le moment le plus important de leur vie.
Bring the Western world, the Kotel,
ils vivaient un moment historique, le moment où le mur occidental, le Kotel, était rendu au peuple d'Israël.
So for them it was the moment they don't want to forget.
Pour eux, c'était un moment inoubliable, un souvenir à conserver.
And they said, okay, we are going to take a photo of all of us.
Ils ont décidé de se prendre en photo devant le mur.
And
ils se sont dit,
we are going to establish the order.
Nous allons établir l'ordre du mur occidental.
And we are going to serve the city of Jerusalem.
Pour servir la ville de Jérusalem.
C'est ainsi que l'ordre secret du Kotel est créé. Les 15 constructeurs, démolisseurs du quartier des Maghrébins se sont ensuite réunis chaque année afin de commémorer leur grande œuvre et ils ont trouvé leur maître à penser.
In June 68.
Un an plus tard, en juin 1968, le secrétaire, qui s'appelait Baruch Barkaï, vénérait une autre personne très célèbre en Israël, qui s'appelle Itamar Ben Avi, le fils de Eliezer Ben Yehuda, qui redonna vie à un nouveau langage hébreu. Itamar Ben Avi avait eu une vision. Il avait dit, un jour nous aurons une grande esplanade et les gens viendront prier, mais pas religieusement, plutôt pour avoir une nouvelle vie. Et la charité ne sera plus dévoyée par les orthodoxes, ce sera un nouveau type de charité pour le mur occidental. Itamar Ben Avi était journaliste et il a écrit que, selon ses visions, le mur occidental deviendrait un monument national avec une place de grande envergure, que des milliers de personnes s'y rendraient et qu'une nouvelle vie, qui était encore un rêve à l'époque, serait insufflée à l'État d'Israël.
Mais quel sens donner à l'histoire de la société secrète du Kotel? Comment interpréter la prophétie de Itamar Ben Avi? L'ordre de destruction du quartier des Maghrébins était-il un ordre sacré?
Ce ne sont pas des religieux qui ont donné cet ordre. Les religieux ne sont pas impliqués ni dans l'ordre de destruction ni dans l'aspect opérationnel. Donc ça, c'est extrêmement important et ça permet de comprendre que l'esplanade du mur des lamentations est d'abord un lieu de mémoire nationale. Encore une fois, le maire, son adjoint, des ingénieurs architectes et l'armée. Il n'y a pas de religieux, il n'y a pas de rabbin dans cette histoire. Les rabbins vont arriver en fait après pour essayer de prendre d'une certaine manière le pouvoir sur l'esplanade du mur. Aujourd'hui, encore quand on va devant l'esplanade du mur, cet espace est divisé en deux. On dit toujours qu'il est divisé en deux entre les hommes et les femmes. Mais ce qu'on ne voit plus, c'est qu'il est divisé en deux entre un espace véritablement religieux, qui sont à peu près les 20 mètres, 20-25 mètres qui sont à partir du mur. Ensuite, il y a une barrière. Et ensuite, l'esplanade continue, elle est bien plus vaste. Et ça, c'était un espace civil, où il y a d'ailleurs un drapeau israélien de ce côté-là de la barrière, et où, où les soldats prêtent serment, etc. Là, ce n'est pas un espace religieux. Donc, l'esplanade du mur, c'est d'abord un lieu de mémoire national qui a été créé, encore une fois, par des sionistes plutôt, pour la plupart d'entre eux, je pense, laïcs, Et ce qui est étonnant, c'est que ce lieu de mémoire leur a échappé, hein, et est devenu ensuite un lieu de focalisation religieux. C'est très, d'une certaine manière, symptomatique de l'histoire d'Israël tout entière. Hein. Israël qui a été créé par des sionistes laïcs, qui se méfiaient de la religion, qui se méfiaient du judaïsme, qui se méfiaient y compris des risques qu'il y avait à faire de Jérusalem la capitale. Donc Israël est une création des sionistes laïcs, mais qui est aujourd'hui, en tout cas, en train, d'une certaine manière, d'échapper à ce projet, d'échapper à ce sionisme laïque et d'être en ce moment pris hein, par le sionisme religieux. L'histoire n'est pas terminée, bien sûr.
50 ans après, la rumeur des fidèles réunis sur l'esplanade du mur pour fêter Shavuot s'élève dans tout Jérusalem-Est et se mêle au dernier appel à la prière du soir en plein Ramadan. Jérusalem 1967, le secret de l'esplanade du mur. C'était un épisode documentaire de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et mis en onde par Elliot Bourrel, avec la complicité de Marion Lefebvre. Un grand merci à Vincent Lemire, directeur du projet Open Jérusalem et de l'ouvrage Jérusalem, histoire d'une ville monde, aux éditions Flammarion. Tous mes remerciements également à Ashraf Chaban pour la qualité de ses traductions, ainsi qu'à Lina pour ses archives. N'hésitez pas à réagir sur marche.monde@rfi.fr. Exprimez-vous sur Facebook, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.